Bien. Mesdames et messieurs et chers collègues, bonjour. Pardonnez-nous ce léger retard. Bien, pour vous dire en quelques mots, parce que bon, je fais fonction de directeur de l'IFE comme administrateur, avec une lettre de mission de réorganisation de la performance d'un institut français d'éducation. Si je suis là ce matin, c'est bien sûr pour vous accueillir, pour aussi signaler que ces séminaires autour de LEA représentent pour nous, et pas que pour nous IFE, mais un ensemble de dispositifs extrêmement importants. Je pèse mes mots, enfin, ne croyez pas que ce soit même dans la relative improvisation, mais l'importance des dispositifs LEA est fondamentale. Elle est fondamentale hier, on est maintenant à 8 années d'existence. Elle est importante aujourd'hui, elle est importante, me semble-t-il, pour demain, en dépit de tout ce qui est en train de se mettre en place, pour lesquels nous sommes toutes et tous dans une certaine incertitude technique, précise, mais on voit bien quelles sont les orientations. Les orientations ne peuvent que prendre appui sur l'expérience, sur pas simplement un travail qui serait pensé en amont et dont on imaginerait les développements, mais ce qui est important dans le dispositif LEA, un, c'est qu'on est dans une véritable dynamique qui permet d'expérimenter sur le terrain avec des élèves, des collègues, des institutions en marche, que chaque dossier LEA prend appui, chaque démarche prend appui sur un laboratoire labellisé, laboratoire de recherche. Donc on a un exemple unique dans ce pays, en tout cas systématique et systémique, de cette relation que nous voulons tous. Enfin, quel que soit, Brigitte, pour le ministère, même chose pour ce qui est de l'enseignement agricole, même chose pour ce qui est de la DGCIP. Enfin, je le dis de façon écuménique, mais cette démarche-là est pour nous essentielle. Il se trouve que l'IFE a un rôle à jouer, que Réjeanne est ici pour piloter ce dispositif LEA, en plus des instituts Carnot, mais vous voyez bien que finalement, sur la tête de Réjeanne, se trouvent liés deux dispositifs importants sur lesquels on prend appui. Hein, donc avec, bien sûr, tout le background, notamment de ce qui a pu se faire ici à l'Institut français d'éducation. Donc c'est dire l'importance de ce que vous allez débattre. Je dis vous parce que je vous abandonne. Le conseil de l'ESPE de Lyon vient de démarrer. Et je devais y être à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Je n'ai que Lyon à traverser. Bon, voilà. Mais simplement, pour vous souhaiter bon travail, pour remercier les autres intervenants, véritablement, que j'ai rapidement nommés. Alors, plus particulièrement, bien sûr, Brigitte, qui, dans ce dispositif, c'est l'apport, le soutien direct de fait de la DGCIP et de la DRDIE, qui est de la DGESCO, pardon, et de la DRDIE. Et vous voyez bien aujourd'hui que le choix qui a été fait par le ministère de l'Éducation nationale de soutenir directement ce dispositif, hein, quand même, dans la note que m'a préparée, enfin les éléments donné par Réjeanne, donc on est à 75 dossiers traités, donc 75 expérimentations qui ont eu lieu ou qui sont en train d'être travaillées. Ce n'est pas rien, ça commence à faire véritablement quelque chose de significatif, en tout cas statistiquement. L'autre point, bien sûr, c'est de dire que nous montons en puissance dans cette volonté qui est affirmée, je peux le découvrir, c'est-à-dire qu'avec les séminaires et au-delà, c'est de pouvoir faire ce travail d'analyse qui a été fait localement de ces expériences pour essayer de voir ce que nous pouvons en tirer, bien sûr, pour comme force ensuite de proposition et de retour sur les problématiques de recherche. On n'est pas sur une recherche qui est simplement hors sol, mais qui est légitimement et qui doit être encore plus ancrée sur ces terrains. Et les LEA sont des dispositifs les plus extraordinaires. Donc merci à vous. Merci de pouvoir également entraîner l'enseignement agricole. J'y ai personnellement une certaine attache pour avoir consacré toute ma vie de chercheur aux questions du rural et de l'agricole dans la France et l'Europe contemporaine des 19e, 20e et 21e siècles. Mais voilà, donc je sais de quoi l'on parle aussi dans le domaine de la formation agriculturo-rurale, parce que c'est bien aussi ce virage-là qui est important. Et puis merci à la DGCIP, à Philippe, j'allais dire vieux complice. Vous voyez à quel point il est jeune, ancien complice du travail lyonnais quand on a constitué cet rassemblement qui était voulu par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais que nous avons assumé et tenté de développer au mieux. Donc voilà, bon travail à tous dans l'ordre. Brigitte, tu prends la... Non, ou comme vous voulez. C'est l'ordre qui est indiqué. Alors Brigitte, si tu veux bien.
Bon, alors du coup, je suis un petit peu intimidée. Bonjour à tous. Je ne peux que vous redire donc, que je suis très heureuse, comme chaque année, de participer avec vous à cette journée de travail collectif. Pour le ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui, jeunesse et sport également. Je pense que cette journée de séminaire de rentrée des LEA va nous permettre de travailler un certain nombre de questions qui saisissent les LEA chaque année, qui sont des questions théoriques, mais aussi extrêmement concrètes, qui sont très importantes aussi à résoudre pour les nouveaux entrants. Je suis heureuse de retrouver Jean-Luc Maillot, toute l'équipe du réseau des LEA, les membres du comité de pilotage que je salue et avec lesquels je travaille tout au long de l'année avec beaucoup de plaisir pour des séances donc régulières qui nous réunissent. Je salue également mes collègues du ministère de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur. Bon, je voudrais peut-être commencer en essayant d'être rapide, ce qui est toujours un peu chez moi une intention vertueuse mais non accomplie. J'en suis désolée. Bon, je vais essayer de faire vite. Je voudrais peut-être revenir sur le temps que nous vivons, qui est un temps où les interfaces éducation-recherche sont plus que jamais interrogées, à explorer, où les réponses à apporter ne rassemblent peut-être pas les acteurs dans une grande unanimité. Donc, on est dans un champ, je dirais, de force, de conception, de tension, dont il faut nous efforcer qu'elles soient les plus fécondes possibles. Mais je pense qu'il est essentiel de défendre un modèle comme celui des LEA. Pourquoi ? Parce qu'il est original et exemplaire, qu'il se déploie avec un jeu d'échelle qui est tout à fait intéressant et qu'il est alternatif ou complémentaire ou pouvant développer une réflexion intéressante sur des approches qui sont quantitatives et en réponse peut-être aussi au paradigme de l'evidence-based. Donc, il me semble que le dialogue entre ces différentes formes de recherche peut être fécond et intéressant. Je voudrais aussi insister sur le fait que l'apport du réseau des LEA, il est très important pour les politiques éducatives et que les LEA sont un dispositif producteur de médiation, le réseau des LEA, et j'insiste sur cette question du réseau des LEA. Alors avec les priorités qui sont actuellement exprimées par le ministère, qui doivent nourrir les projets existants, susciter des projets nouveaux, et notamment dans le cadre de l'appel à projets auquel nous avons réfléchi dans le cadre du comité de pilotage. Ces priorités, elles ont été rappelées hier par notre DG à l'occasion du séminaire de rentrée de la DGESCO au lycée Louis-le-Grand. Petit 1, les apprentissages fondamentaux à l'école primaire. Petit 2, la réussite des élèves dans le secondaire avec la refonte de la voie technologique, avec le souci d'un fil directeur fort exprimé hier par le DG, celui qui nous préoccupe tous, je pense, celui de la justice sociale, avec les moyens, je dirais, d'y parvenir et ce qu'il faut déployer et qui est plus ou moins pertinent pour y parvenir. Donc je dirais que de ce point de vue-là, nous sommes en tant qu'institution collective profondément interrogés et saisis. L'ELEA réalise depuis 2011 ce projet de rapprocher donc les savoirs issus de la recherche et ceux de l'expérience professionnelle. Je voudrais continuer en disant, et je vais tâcher de terminer rapidement parce que je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel, que l'ELEA pourrait vouloir dire lieu d'éducation apprenant, car il s'agit d'un dispositif intelligent et apprenant qui donne du pouvoir d'agir à ces acteurs en les invitant à inventer un projet de recherche collaborative pour trouver une solution à une question identifiée collectivement. Et ça, bon, c'est quelque chose qu'on répète régulièrement, mais c'est très important de se le redire, bon, un peu comme un mantra, hein, si je puis dire, mais c'est essentiel. Un dispositif collaboratif qui produit, Jean-Luc l'a dit tout à l'heure, du lien professionnel, du lien pédagogique, du lien social. J'ai parlé tout à l'heure de dispositifs à échelle, enfin multi, de dispositifs un peu multiscalaires, enfin possiblement multiscalaires, à échelle pertinente, parce que c'est un dispositif qui est down-top, c'est-à-dire que ça commence en EPLE ou autre type d'établissement. C'est la richesse d'ailleurs du réseau qui a connu des établissements hospitaliers, des établissements pénitentiaires, pas aussi nombreux évidemment que les établissements de l'éducation nationale, mais néanmoins c'est un modèle extrêmement intéressant. Donc ça commence en établissement, ça se poursuit à l'échelle académique et cela aboutit à un réseau national qui vit, qui est vivant. Par ailleurs, je soulignerai aussi le fait que c'est un dispositif qui propose une approche holiste de l'éducation comme fait social total dans des échanges qui sont féconds entre disciplines et auxquels nous tenons beaucoup. Un dispositif innovant et créatif en ce qu'il ne s'enferme pas dans une approche procédurale et donne toute sa chance à ce que les chercheurs aiment. C'est le processus de sérendipité. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose, serendipity, j'aime beaucoup ce mot en anglais, je trouve qu'il sonne agréablement. On cherche quelque chose et on va peut-être trouver quelque chose d'un peu différent, inattendu. Bon. L'intérêt aussi, c'est la construction avec des configurations variables et des collectifs de travail, des collectifs professionnels qui s'inventent en co-construisant. Un réseau aussi qui explore des modes de gouvernance qui s'efforcent de ne pas être descendants, mais plutôt down-top, top-down. Un réseau qui se construit également dans la reconnaissance de rôles, des rôles spécifiques de chacun, des normes et des valeurs de chacun, qui accepte de travailler sur la possible conflictualité de ces valeurs, de ces normes et valeurs, pour les dépasser et en faire une tension qui sera féconde pour le travail. Et enfin, j'ai envie de terminer, et puis je crois que je m'arrêterai là. Ça fait déjà un moment que je dis que je vais m'arrêter. Un réseau qui se construit sur une éthique de la reconnaissance. Je pense au merveilleux philosophe Axel Honneth, et où chacun donc peut trouver sa place. Donc je nous souhaite une très belle journée de travail. Nous aurons l'occasion d'échanger sur des questions, alors peut-être dans les questions de chantier quand même, hein, que nous devrons explorer, la question des moyens, la question de l'évaluation, comme toujours, la question du lien avec les SP, l'expertise que les Léa ont acquis pour la formation, l'appel à projet que nous avons coécrit, la journée nationale de l'innovation qui va se dérouler à la Gaîté Lyrique en 2019 et dans laquelle les Léa doivent tenir toute leur place, la question d'Innovatech et la rénovation de cet outil dans lequel, qui est un outil donc de présentation des projets innovants et dans lequel les Léa bien évidemment doit figurer, l'importance qu'il y a pour les Léa à figurer dans l'enquête expérimentation de la DGESCO. Voilà, j'en ai fini. Je nous souhaite à tous une très belle journée de travail. Merci à tous.
Merci, merci beaucoup. Merci Brigitte. Je laisse tout de suite la parole à Nathalie Hérault pour la rue de Varennes, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture. et de l'alimentation et peut-être de l'alimentation et de l'agriculture, si vous en êtes d'accord.
C'est la grande question. Pour l'instant, je m'appelle toujours pareil. Merci. Bonjour à tous. Donc, on m'a présenté déjà. Donc, je suis Nathalie Hérault. Donc, je représente le ministère de l'Agriculture, mais plus particulièrement la Direction générale de l'enseignement et de la recherche. Au sein de ce ministère, cette direction, donc c'est ce qu'on appelle communément l'enseignement agricole. Je suis pour ma part chargée de mission innovation pédagogique et numérique éducatif auprès de la sous-direction de la politique de formation et d'éducation. Alors j'aimerais, mon propos va être très rapide, parce que je ne suis pas une grande oratrice déjà, donc j'en ai pas spécialement l'envie hein, de parler beaucoup, mais mon propos va s'articuler sur trois points. Je vais faire un petit focus quand même sur l'enseignement agricole, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait une représentation de cet enseignement. Donc je vais vraiment de façon très light pointer les spécificités d'enseignement agricole, et je terminerai sur... ce que nous attendons des Léa, en fait, au sein de notre ministère, notre direction, plus précisément. Alors, l'enseignement agricole, en quelques mots, c'est le deuxième système éducatif français, même si, évidemment, en volumétrie, il représente peu de monde, hein, puisque nous sommes sur 455 000 apprenants. 455 000 apprenants qui sont répartis dans 800 établissements enseignement public et privé, 18 écoles nationales supérieures et un bon nombre de CFA et de CFPPA. Nous avons à peu près à parité égale le nombre d'apprenants en formation initiale scolaire et en formation professionnelle. Alors, les formations que nous dispensons conduisent à une grande variété de diplômes, évidemment dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire, hein, puisque c'est déjà dans l'intitulé de notre ministère. Mais, et c'est beaucoup moins connu, nous avons aussi des formations qui sont évidemment dans le domaine vétérinaire, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine des aménagements des espaces et des territoires, et des services aux territoires et aux personnes. Donc il y a certains diplômes qui en fait se recoupent avec des formations que l'Éducation nationale met en œuvre. Nous avons évidemment des spécificités et des convergences hein, avec votre ministère. Alors, nous avons évidemment des terrains d'application différents, nous avons une gouvernance différente puisque nous sommes vraiment à taille beaucoup plus petite. Donc, c'est vrai que nous avons dès qu'une innovation naît hein, au sein d'un EPL, on est tout de suite au courant puisqu'il y a vraiment un niveau hiérarchique très très faible entre nos établissements et la direction. Mais évidemment, la finalité des formations, elle est exactement la même que la vôtre, c'est-à-dire que nous sommes pour la réussite, et, la réussite scolaire hein, des apprenants et évidemment la meilleure insertion professionnelle et sociale des personnes qui suivent toutes les formations, hein, puisque c'est ça l'objectif hein, final, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'attend le ministère, en fait, des Léa? Nous sommes invités dans le dispositif il y a vraiment très peu de temps, puisque c'était en 2016 et que nous avons actuellement 3 établissements qui sont suivis par le dispositif. Pour autant, dans l'enseignement agricole, nous avons une tradition hein, de suivre des établissements en expérimentation. Nous appelons ça la recherche-action. Mais il est vrai que ce sont plus sur des questions évidemment agronomiques hein, et environnementales. Et pour nous, les Léa, c'est évidemment l'opportunité de créer du lien avec l'Éducation nationale, donc avec vous, pour évidemment croiser nos regards pédagogiques. Hein. Donc le fait de rentrer dans ce dispositif, ça permettra à nos équipes de chercheurs de se pencher un peu plus sur les questions pédagogiques et éducatives qui sont menées évidemment, mais bon, c'est pas le cœur de métier. C'est pas une longue tradition en fait chez nous. Voilà. Donc les collaborations entre l'enseignement agricole et l'IFE, confortées par la présence d'une représentante de l'IFE hein, au sein de notre comité de l'innovation et de l'expertise hein, que nous avons mis en place en 2014 au sein du ministère, qui appuie du coup la volonté d'innovation au sein de notre ministère. Et puis, nous avons aussi un dispositif national d'appui, nous appelons ça le DNA, en lien avec notre inspection. Ce sont vraiment deux dispositifs qui sont au plus près des établissements pour, et référents pour les expérimentations que nous mettons en place. Donc, il est vrai que toutes les pratiques pédagogiques remontent très facilement à la direction et on est plus à même aussi qu'une innovation puisse devenir un standard, en fait. Voilà. Je conclurai très vite en vous disant qu'évidemment, nous sommes tout à fait... favorable à une prochaine collaboration à la fin des projets que nous avons actuellement en place, hein, puisque fin 2019, nos trois établissements auront terminé leur expérimentation et que pour l'appel à projet 2019, nous souhaitons continuer dans ce dispositif en espérant que nos établissements pourront être accompagnés par un établissement du supérieur de l'éducation nationale, puisqu'actuellement, ce sont plutôt des écoles internes. Voilà.
Bien. Merci, merci beaucoup de ce retour sur une collaboration récente, mais l'importance de cette intervention de la DGER, bien évidemment, du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, n'est pas sans lien aussi avec nos préoccupations comme. Chercheur concernant le rural et l'agricole, je n'aurais jamais pensé que les territoires de faiblesse éducative d'aujourd'hui et de demain, même dans l'Académie de Lyon, pouvaient être ces régions agricoles tellement riches du Beaujolais et du Haut-Beaujolais. C'est pour vous dire à quel point les choses et les points de vue peuvent changer. Et voilà, je tenais à le dire et à quel point nous devons travailler ensemble, comme nous devons travailler ensemble avec l'enseignement supérieur, avec cette première initiative et d'autres, je l'espère. Donc, la parole à Philippe Lalle.
Oui, bonjour à tous. Donc, comme tu l'as dit, Jean-Luc, je représente donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et plus particulièrement donc la DGCIP. Alors, pourquoi et où je suis donc conseiller stratégique pour la pédagogie. Ça fait bien comme titre, conseiller stratégique. Il n'y a que des stratèges dans les ministères. Mon vrai métier étant d'être professeur d'université à Lyon. Et effectivement, donc, je ne suis pas venu de très loin ce matin. Et j'ai un lourd passé de vice-président en formation de cette université où on a, tu le disais, eu l'occasion de collaborer. Alors, pourquoi la DGCIP maintenant dans le supérieur? Alors, pourquoi le supérieur s'implique dans l'ELEA? Il y a des changements majeurs que vous connaissez. Qui sont la massification de l'enseignement supérieur, mais qui dit massification dit diversification. Diversification donc des aspirations des étudiants, de leur profil tout d'abord, de leurs aspirations. Il faut voir qu'on a de plus en plus des étudiants qui ne sont pas étudiants à temps plein, qui ne sont pas ceux que nous étions, et qui sont pour un tiers d'entre eux, par exemple, salariés. On a des musiciens de haut niveau, des sportifs de haut niveau, des étudiants qui sont des parents, et puis surtout des étudiants de tous âges, puisqu'on est quand même, on essaie de rentrer dans la formation tout au long de la vie, même si notre pays est quand même un petit peu à la traîne. Alors face à tout ça, bien sûr, on a des enseignants-chercheurs, qui sont des enseignants-chercheurs qui ont été formés, comme je l'ai été, eux d'abord qui étaient des étudiants à temps plein, souvent, qui sont ceux qui ont le mieux réussi dans le système et finalement qui aurait réussi dans un système quel qu'il soit. Avec, on a tous eu de très bons profs, on a tous eu aussi de très mauvais profs. On se souvient généralement de ces deux extrêmes-là. Seulement, on a un métier d'enseignant-chercheur dans lequel on ne forme pas. On ne formait pas jusqu'au 1er septembre, on ne formait pas les enseignants-chercheurs à enseigner. C'est peut-être d'ailleurs le seul métier où en France on jugeait jusqu'à maintenant qu'il ne fallait pas se former. Un charcutier, on espère qu'il est formé. Un boucher, on espère qu'il est formé. OK, vous pouvez trouver tous les métiers du monde. Et le slogan des SP était, il y a quelques années, « Enseigner un métier qui s'apprend ». Oui, mais pas dans le supérieur. Alors, depuis le 1er septembre, qu'est-ce qui a changé? Eh bien, tous les nouveaux maîtres de conférences doivent être formés à la pédagogie. Et j'avoue que j'y suis un petit peu pour quelque chose, enfin... en toute modestie, parce que ce sont les ministres qui signent, mais enfin voilà, il y a des fois des conseillers qui sont un tout petit peu écoutés. Et donc, cette formation, donc pourquoi je vous explique ça? Bien sûr, parce que notre premier Léa, qui est porté par l'INP Toulouse, l'Institut National Polytechnique de Toulouse, et qui s'appelle Impliqué pour INP, lieu INP avec une faute d'orthographe, c'est impliqué avec un N, mais enfin, INP, lieu en questionnement dans l'enseignement supérieur. Donc, va avoir deux objets. C'est d'analyser les effets de la formation des enseignants-chercheurs sur leur pratique et de voir aussi ce métier en émergence qui est celui de conseiller pédagogique dans l'enseignement supérieur. Donc voilà, globalement, c'est deux axes. Pourquoi donc maintenant, je vous le disais, parce que les étudiants sont de plus en plus divers. Je vais quand même rajouter deux autres phénomènes, parce que le numérique est aussi partout dans nos vies, et bien sûr, il rentre dans les amphithéâtres avec tout ce qu'il peut apporter, avec les côtés positifs, hein, bien sûr, on peut sonder en direct les étudiants, avec les côtés finalement négatifs aussi, parce que les étudiants sont sur Internet et pas que en train de regarder vos cours, ce que vous avez mis en ligne. Ok, donc il faut gérer tout ça. Et puis, un autre point, ce sont les lieux qui changent. On essaie de plus en plus de sortir de la pédagogie frontale, hein, celle qu'on fait actuellement, pour avoir des lieux d'apprentissage qui sont un petit peu plus propices précisément à l'apprentissage, parce que l'apprentissage, il ne se fait pas comme ça, la science descendant de la chair et rentrant dans les cerveaux et surtout y restant, ad vitam aeternam. Mais les étudiants, comment ils apprennent? Ils apprennent en travaillant ensemble, donc bien sûr, ça, il faut réaménager les espaces. Moi, ça me frappe toujours de voir qu'en maternelle, on est par table de 4 ou 6, comme ça, puis à partir du CP, on est comme ça, jusqu'à la terminale, à part peut-être les travaux, les TER qu'on fait en première, TPE, pardon, qu'on fait en première, ok, mais à part ça, on est dans ce format-là. Puis alors, nous, on arrive à l'université, on leur dit bougez, je vous pose des questions, répondez. Alors bien sûr, ça fait 15 ans qu'on les a mis comme ça, comme vous êtes maintenant. Ça ne marche pas. Mais en fait, il faut quand même qu'on fasse avec. Voilà, donc voilà pourquoi il faut essayer d'accompagner, former les enseignants-chercheurs à la pédagogie. Et puis le dernier élément, après donc, la massification, le numérique, les espaces à changer, eh bien, ça fait un peu café du commerce, ce que je vais vous dire là, mais ce sont les fake news. Effectivement, on a des étudiants qui sont tout aussi exposé aux fake news que toute la population. Et effectivement, on a parfois des étudiants, moi je le vois en biologie moléculaire, puisque c'est mon domaine, qui croient beaucoup plus ce qu'il y a dans un tweet en 140 caractères qu'une étude scientifique fondée. Et je vais en donner un exemple. Il est volontiers provocatif. Provocatif, ça veut dire qu'il a le mérite de provoquer. Mais si je parle de vaccin, je suis sûr qu'on pourrait lancer un débat. Et que parmi vous, alors tant pis, je vais prêcher un instant, que parmi vous, certains diraient, oui, les vaccins, c'est dangereux, je ne sais pas et tout. Non, il y a eu une étude retirée depuis, qui a été publiée en 1998, qui a montré un lien entre le vaccin ROR et l'autisme. Cette étude a été retirée, parce que 8 des 11 auteurs se sont rétractés, ont admis qu'il y avait eu un conflit d'intérêts. Le principal investigateur, en fait, était payé par un cabinet d'avocats qui essayait de défendre une famille, qui essayait de montrer qu'il y avait un lien, donc il y avait un conflit d'intérêts majeur. Depuis, il y a eu au moins 200 publications qui ont montré qu'il n'y avait aucun lien, et pourtant, une part très importante, je ne ferai pas de sondage ici, de la population pense qu'il y a un lien entre l'autisme. Donald Trump le tweet d'ailleurs, ce qui ne m'embête pas, parce qu'après tout, il a le droit de tweeter ce qu'il veut. Ce qui m'embête, c'est les 100 000 personnes qui ont retweeté son tweet. Voilà, et bien nos étudiants aussi, même les miens en biologie moléculaire, je lutte contre tout ça. Et voilà, et donc il faut accompagner les enseignants-chercheurs à tout ça, à être face à ces nouveaux publics, à utiliser le numérique, à utiliser nouveaux espaces. C'est l'objet de ce premier Léa, et vraiment, ça a tout, vraiment un sens hein, que notre ministère soit associé à ce réseau des Léa. Voilà. C'est ce que je souhaitais vous dire.
Merci infiniment, Philippe. Voilà, c'est un très beau plaidoyer, très belle justification de cette démarche collective, commune. Mais vous voyez qu'il y a de toute façon un avenir pour les LEA et tout ce qui peut en être, non seulement comme expérimentation, mais encore une fois, comme choc en retour. J'y tiens beaucoup à cette expression sur les problématiques de recherche. Merci Réjeanne, bon travail à toutes et tous.